France Culture. h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Elle réalise, il joue. La réalisatrice Valérie Donzelli et le comédien Bastien Bouillon seront mes invités à partir de 13h. On parlera du film à pied d'œuvre. Et comme promis, on commence par la table ronde critique, consacrée aujourd'hui à l'actualité théâtrale. On va donc parler de Chien, la nouvelle création de Lorraine de Sagazan au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, et de l'affaire Elle expire, le nouveau ciné-spectacle de la compagnie La Cordonnerie. C'est au Théâtre de la Ville Sarah Bernard. Ces deux spectacles tourneront ensuite en France. Vous écoutez les Midis de Culture, ça c'est une coïncidence. Et pour débattre autour de la table aujourd'hui, Anna Sigalevitch, journaliste et autrice, bonjour.
Bonjour Marie.
Victor Inizan, docteur en études théâtrales, dramaturge et critique, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux. On commence avec Chien, la nouvelle création de Lorraine de Sagazan, spectacle que la metteuse en scène présente comme une installation plastique et musicale. Et de fait, il s'appuie sur deux cantates de Bach, adaptées par Othman Loati. Sur scène se mêlent comédiens et chanteurs, à leurs pieds et en fond de scène, des vêtements recouverts de silicone, comme coagulés, qui forment un décor étrange, assez inquiétant, comme s'il était fait de peau humaine. La beauté et la terreur sont donc convoquées pour parler d'une affaire sinistre, l'affaire French Bukaki, 17 hommes qui doivent comparaître devant les assises de Paris pour viol en réunion et traite d'êtres humains. Ils ont pendant plusieurs années organisé et participé à des tournages de séquences pornographiques extrêmes. Les femmes recrutées subissaient en réalité des viols à répétition. Comment faire de cette violence un spectacle qui n'ajoute pas de la violence, se demande Lorraine de Sagazan. On va en parler. D'abord, quelques mots à Anna Sigalevitch.
Quelques mots. Moi, c'est un spectacle qui m'a vraiment posé problème, qui me dérange, qui presque me dégoûte. Alors, elle dit vouloir déranger, vouloir gêner le spectateur, mais à mon sens, elle le fait à un endroit qui n'est pas intéressant, qui n'est pas productif. C'est pas dénué de talent. Il y a même de la séduction dans le spectacle, hein. Mais je m'insurge presque contre cette séduction, parce qu'il y a quelque chose pour moi de malsain. Et en plus, je trouve qu'elle ne traite pas le sujet, mais qu'elle se met en scène elle-même avec ce sujet-là.
Victor Inizan.
Je trouve que c'est un spectacle qui est très stimulant, qui est impossible sur le papier, parce que, comme vous l'avez dit, il y a une horreur dans le spectacle qui est irreprésentable de toute façon. Et comme pour tout spectacle impossible, il est bourré de problèmes. Le problème central étant, je crois, le théâtre. C'est-à-dire que tout ce qui est un peu théâtral dans la proposition regarde un peu trop sa propre gravité, sa propre nécessité et devient un peu présomptueux. Et c'est vraiment dommage parce que l'aspect, vous en parliez Marie, installation plastique et musicale du spectacle, c'est-à-dire en fait le dispositif avec ses cantates modernes, enfin de Bach mais modernisées dans les paroles,
l'espace et la lumière, désacralisé surtout.
Et désacralisé qui discute comme ça avec cette retranscription ultra brutale des viols textuels. Ça, ce dispositif-là, je trouve extrêmement percutant.
Alors, Anna Sigalevitch, vous avez dit quelque chose sur laquelle j'aimerais bien qu'on rebondisse tout de suite, c'est que elle dérange, elle dégoûte, elle atteint, c'était son but, mais vous dites à un endroit qui n'est pas productif.
Et oui, parce que en fait, je ne comprends pas son sujet. Est-ce que son sujet, ce sont ces femmes qui ont vécu ces atrocités, cette barbarie? Est-ce que c'est la réponse de la justice à ces femmes? Est-ce que c'est la possibilité ou l'impossibilité de porter à la scène un tel sujet? Est-ce qu'elle travaille sur la notion de fiction? Je trouve qu'elle n'est pas du tout claire non plus avec ça. Est-ce qu'elle interroge notre regard bourgeois, hein, nous qui savons et continuons à rester neutres, voire à nous divertir avec tout ça? C'est un petit peu de tout ça et rien de tout ça, en fait, réellement. Et alors, il faut dire que petit à petit, elle entre en jeu elle-même dans le spectacle.
C'est-à-dire, elle monte sur scène.
Au départ, c'est sa parole qui s'inscrit en fait sur l'écran. Alors, il faut quand même que j'explique un tout petit peu le dispositif qui, en effet, comme le dit Victor, est intelligent et séduisant à un certain endroit parce qu'il y a donc toute cette scène monstrueuse que subit une des jeunes filles de l'affaire French Bukkake, qui est ici appelée Jessica. Et on l'entend par le texte qui s'inscrit sur un écran. Enfin, on l'entend pas d'ailleurs, on le lit par ce texte qui s'inscrit sur un écran. Et ça dure quasiment pendant tout le spectacle. Donc, pendant qu'il se passe autre chose sur scène, ça continue, ça dure. Et en effet, c'est assez insoutenable. Donc ça, je trouve que c'est un dispositif qui est intéressant. Sur Bach, ce que vous dites sur les cantates, Victor, oui, c'est beau. Mais justement, cette esthétisation, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Comment elle joue? Enfin, pour moi, on n'est ni chez Pasolini, ni chez Castellucci, ni même chez Angelica Liddle, où il y a quelque chose qui provoque, qui dérange, mais qui produit chez le spectateur quelque chose, qui donne de la matière à penser. Là, bon, je ne comprends pas très bien, mais j'ai l'impression... Victor, ouais. Si vous voulez réagir...
Oui. Victor, c'est vrai que sur la question... Enfin, et peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière, ouais. Sur les deux précédents spectacles de Lorraine de Sagazan, donc Léviathan... Enfin, j'exclus, pardon, le silence que moi, je n'ai pas vu, mais Léviathan et Un sacre. Moi, j'étais un peu dérangé, parfois, entre cette espèce d'ambiance assez esthétisante, toujours, mais plutôt aboutie, quand même, et puis le texte qui était d'origine, enfin en tout cas plutôt une matière documentaire. Là, ce qui change profondément dans ce spectacle, c'est que le texte, à quelques rares exceptions qui, à mon avis, marchent pas, n'est pas pris en charge par des comédiens, mais vraiment sur un écran, donc ce qu'on disait, le documentaire horrible de récits de viol. Moi, ce qui m'intéresse dans ce dispositif, c'est que du coup, en déplaçant le texte sur un écran, la scène devient vraiment, comme vous le disiez, Marie, une installation plastique musicale. Et moi, ce que ça m'a créé, c'est deux choses. Et je crois que la concordance de ces deux choses est assez passionnante. C'est-à-dire que ça m'a rendu bizarrement supportable le déroulé des viols. C'est comme s'il y avait quelque chose que le sublime essayait comme ça de contenir. Parce que c'est vrai que les lumières, bon, je pense notamment aux lumières, notamment parce qu'on est au Théâtre des Bouffes du Nord, qui est un théâtre très difficile, très très beau, mais très difficile à éclairer. Les lumières vraiment magnifiques de Claire Gondrexon, les chants qui sont très beaux. Je trouve qu'il y a quelque chose du sublime comme ça face à l'horreur qui me tient un peu. Et en même temps, et c'est là que je trouve que c'est intéressant, c'est que je me suis dit, d'un côté, ça renforce, ça contient avec du sublime, et de l'autre côté, ça m'a créé encore plus de dégoût. Et je me suis dit, tiens, il y a comme quelque chose qui est en même temps plus beau et en même temps plus horrible parce qu'on l'esthétise. Alors, à mon avis, c'est pas vraiment très efficace d'un point de vue dramaturgique, parce qu'il y a vraiment l'idée de faire un parallèle entre les victimes du French Bukkake et les martyrs dans la culture judéo-chraîtrienne. Bon, ça, je trouve pas ça
mais
très
c'est
très...
pas du tout traité.
Non, mais ça, c'est vrai que c'est pas lisible.
Pas du tout.
Non, mais je suis d'accord.
Qu'est-ce qu'elle dit sur l'héritage judéo-chrétien? Rien.
Oui. C'est vrai, et je suis d'accord que c'est un peu tractopelle, espèce de gros désir d'historicisation, comme ça, je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, l'intérêt n'est pas dans l'association dramaturgique, il est vraiment dans l'association purement poétique. C'est-à-dire que il faut ce sublime pour que l'horreur puisse finalement être supportable, même si évidemment
elle est
extrêmement dérangée.
Mais pourquoi elle devrait être supportable, en fait?
Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est en même temps.
Qu'on puisse en parler, peut-être.
C'est-à-dire que c'est en même temps supportable et en même temps ça crée un dégoût plus fort. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette espèce d'endroit très dialectique que je trouve assez passionnant. C'est que il y a cet écran qui est affreux, qu'on quitte des fois. Et en fait, je trouve que le fait qu'on ait les cantates modernisées, parce que il faut le dire, effectivement, avec des textes qui sont assez crus. Oui. Aussi, dans cet espace qui est très beau, avec voilà. Enfin, il y a quelque chose qui, à mon avis, fonctionne encore une fois dans ce dispositif installation plastique et musicale. Après, tout ce qui est de l'ordre du théâtre, on va peut-être en parler, mais oui. Tout ce qui est théâtral, ça, je serais beaucoup plus réservé.
Sur ce qui est théâtral, Anna Sigalevitch.
Sur ce qui est théâtral, c'est très, très discutable. Moi, je trouve ce qu'elle fait faire à ses acteurs.
Mais c'est-à-dire d'un point de vue moral, là, vous plaît.
Ah oui, oui, ouais, oui. Anna. Enfin, parce que c'est bien fait. Hein. Déjà, c'est des acteurs que j'aime beaucoup. Vladislas Galard, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Manon Sardel, elle est formidable. Léo Antonin Lutigny aussi, c'est vraiment des acteurs. Alors, ouais. Par ailleurs, Léo Antonin Lutigny et Vladislas Galard, elle les prend comme ils sont chez Jeanne Candel, chez Samuel Achache, c'est-à-dire ce sont des acteurs un peu clown, un peu trublion, un peu bouffon, un peu performeur comme ça, qui sont toujours dans une adresse directe avec le public. On les a déjà vus dans ce type de théâtre et d'adresse au public. Donc là, elle les met donc à un autre endroit. Et alors, mais même sur les choses intéressantes, moi je me suis dit pourquoi pas mettre en regard le côté les problématiques bourgeoises et les problématiques absolument dramatiques que soulève le spectacle. Donc les problématiques bourgeoises, Léo Antonin Lutinier par exemple, il incarne jeune quadra, donc blanc, cisgenre, déconstruit.
Faussement déconstruit d'ailleurs, enfin, qui fait comme s'il l'était.
Voilà, qui fait comme s'il était déconstruit. Enfin d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous dites faussement
déconstruit. Parce qu'au bout d'un moment, il dit prenez la pilule rouge, enfin, il y a quand même un discours un peu mascu à la fin qui commence à apparaître.
Oui,
arrêtez d'avoir des relations sexuelles, les femmes, avec les hommes, sauf avec moi. Enfin, il y a quand même tout un truc de je fais comme si c'était construit, et surtout je pique la parole aux femmes sur le plateau.
Oui, et alors, mais pour moi, il y a plus quelque chose d'ironique sur l'injonction à une nouvelle pensée, une certaine pensée, quand on pense bien, entre guillemets.
Oui, bien sûr, il y a les deux.
Donc, ça, je trouve que c'est pas inintéressant la façon dont elle fait ça, mais alors après. Donc déjà, ça ne va pas assez loin. Et puis après, elle entre en jeu, en fait, parce qu'on voit donc Vladislav Galard et Léo Antonin Lutinier qui sont en scène en train de discuter. Ils disent « Ah bah, on est tous les deux là, mais en fait, on n'aurait peut-être pas dû être tous les deux là parce que nous sommes deux hommes, etc. Et qu'on... » Donc, quelle est notre légitimité à être là ? Et là, elle entre en jeu, elle dit « Oui, mais je vous aime bien. » Et elle met en scène elle-même son propre désir de metteuse en scène et la façon dont elle peut elle-même s'adiser à avoir du pouvoir sur eux. Donc, il y a de l'ironie, il y a du sarcasme, mais qu'est-ce que ça produit ? Comment ça détourne ? Comment on sort du sujet ? Comment on s'amuse avec ça ? Enfin, je trouve ça un peu obscène, en fait. Quand on parle d'un sujet comme celui-ci, de après, hop, on rigole un peu entre nous sur nos problématiques à nous, et puis ensuite, elle entre en scène à la toute fin du spectacle, et là, elle nous dit que évidemment, c'est un spectacle et que tout ce qu'elle va dire est de la fiction. Or, c'est pas vraiment de la fiction. Enfin, il y a quelque chose qui est pas clair dans sa façon de traiter le réel et la fiction.
Sur cette entrée en scène, Victor Inizan. Bon,
moi, je trouve pas ça obscène. Enfin, j'ai pas de problème moral avec le spectacle, que je trouve plutôt intéressant à cet endroit-là. Par contre, je trouve que c'est à la fois cette entrée en scène finale, comme tout le petit duo bizarrement ironique, comique, Galard, Lutinier, et la présence à l'écran dans un premier temps de la parole de Lorraine de Sagazan. Je trouve que c'est du commentaire en fait. Et je me suis dit, c'est pour ça que je disais que le spectacle regarde un peu sa gravité, c'est que je me suis senti légèrement déresponsabilisé par ces moments-là en tant que spectateur. Je me suis dit, mais en fait, le dispositif prend déjà très efficacement en charge l'aspect dérangeant, l'aspect politiquement vraiment profond, etc., du spectacle. Et je comprends pas pourquoi, et là on est d'accord, Anna, effectivement, je comprends pas pourquoi on a besoin, dans une sorte de dernier temps du spectacle, de ces moments méta.
C'est-à-dire qu'elle nous explique le spectacle, c'est
oui,
ça ?
Mais oui, en fait, elle nous explique le spectacle et donc elle nous explique un peu ce que le dispositif raconte déjà. Et moi, je trouve ça dommage parce que je me dis, ça m'enlève un peu un endroit de penser.
Elle nous explique aussi, surtout elle, par rapport à son propre sujet. Elle, metteuse en scène, elle...
C'est ça. Alors, je crois que le dispositif, encore une fois, visuellement, disait déjà, en fait, à peu près ça. Donc, j'ai un peu de mal à comprendre ce moment-là. Et c'est pour ça que je disais que les moments... Alors, c'est pour ça que je sais pas si c'est théâtral, mais en tout cas, les moments vraiment de prise de parole, pas sur l'écran, mais en réel, fonctionnent moins. Je donnerais quand même une exception, qui est celle qu'on a entendue dans l'extrait, qui est le début du spectacle, où on a... Donc là, c'est Vladislav Galard, et effectivement, enfin, qui sont des acteurs qu'on adore, enfin, vraiment, c'est pas, vraiment pas le problème, qui performent le monstre, avec une voix pitchée, il a un masque aussi, etc. Cette introduction, elle est très belle, précisément parce qu'elle n'est pas du tout réaliste. Elle n'est pas du tout réaliste. Elle fait d'ailleurs plus performance qu'autre chose. Et c'est pour ça que je le martèle, mais l'installation fonctionne, la performance fonctionne, les sketchs et les désamorçages, notamment Lutinier, que j'adore, hein, c'est vraiment pas le problème.
Oui,
et là, vraiment,
c'est
la première fois où je me dis, oula, là, il y a un truc qui fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il essaye de désamorcer la gravité du spectacle, mais en fait, en la désamorçant, il nous montre que c'est grave. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à désamorcer tellement c'est grave. Mais il n'y a pas besoin de désamorcer. Le dispositif nous met déjà dans cette zone morale assez passionnante.
Et sur cette question, justement, de la violence, qu'on rajouterait à la violence avec le spectacle, qu'elle met en avant tout de suite, Lorraine de Sagazan, qu'est-ce qu'elle en fait ?
De la violence ? Non, ça pour le coup, elle le traite de façon... Moi, ce qui me gêne plus, c'est l'esthétisation de la violence. Ça me fait quand même...
Moi, je trouve pas qu'elle esthétise tant que ça, la violence, mais...
Oh bah si, avec la beauté de Bach, la beauté plastique du.
Oui, mais je trouve pas ça complaisant. Enfin, il y a pas de, y a, elle sombre pas dans une sorte comme ça de. Moi, c'est pour ça que je dis que je trouve ça esthétique, mais je trouve pas ça si esthétisant que ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait une sorte de complaisance morale. Là-dedans, même si j'entends qu'on n'est pas d'accord.
Bon, vous n'êtes pas ressorti dans le même état, en tout cas, de ce spectacle. Chien, mise en scène par Lorraine de Sagazan. C'est donc jusqu'au 14 février au Bouffe du Noir. Il y aura une tournée, on mettra évidemment les dates sur la page des Midis. Et le livre Sous nos regards, qui est le récit, les récits des victimes de ces affaires French Bukkake, apparu au Seuil, et les droits sont reversés à l'association, à la Fondation des Femmes. Et c'est l'heure de votre coup de cœur, Victorine Isan.
Oui, effectivement, je voudrais vous parler d'une mouette argentine, donc Gaviota, dont le dramaturge Juan Ignacio Fernandez a réduit l'intrigue à 5 personnages, et que le metteur en scène Guillermo Cacace a réduit à une lecture, en tout cas en apparence, avec le public en quadrifrontal, voire carrément à la table, avec les personnages, comme si c'était une répétition ou une sortie de résidence. Et les 5 personnages sont lus par des femmes, sans qu'absolument aucune raison ne soit avancée. Et c'est très bien, parce que ça montre, je trouve que comme pour toute bonne pièce, et Tchekhov compris, les relations entre les protagonistes comptent plus que les personnages eux-mêmes et leur genre. Et on pourrait se dire que cette idée de lecture comme ça, c'est quelque chose de très avant-gardiste, un Tchekhov qui serait complètement désossé. Bon, à la base, c'est un projet Covid. Ils ont répété sur Zoom, et ils se sont débrouillés, voilà, ils ont fait avec. Et c'est un spectacle d'une sérendipité incroyable, parce que paradoxalement, j'ai rarement aussi bien entendu Tchekhov, alors que le dramaturge a quand même pas mal sabré dans la pièce pour qu'on oublie d'ailleurs totalement, c'est en espagnol, hein, en argentin, l'esprit russe. Mais il y a une confiance dans ce spectacle, dans les actrices qui sont exceptionnelles. Je pense notamment à Pilar Boyle qui joue Kostia et à Paula Fernandez-Barak qui joue Arkadina. Et aussi une confiance toute simple dans les situations qui sont épurées à l'extrême, avec une grande précision, enfin en tout cas beaucoup plus grande, moi j'en ai vu plein forcément des mouettes, que dans d'autres versions plus argentées et un peu plus voilà grandiloquentes de la mouette. Et de fait, j'ai trouvé que tous les éléments scéniques sont super lisibles dramaturgiquement. Je pense juste les lunettes de soleil d'Arkadina qui restent, le bandage de Kostia après qu'il ait raté son suicide, les lumières qui baissent, qui sont toutes simples, hein, mais qui baissent tout le long du spectacle, sachant que les actrices sont toutes, tout le temps, éclairées, et donc elles jouent même quand leur personnage est absent, ce que je trouve une assez belle idée. Et même les silences des personnages entre les actes dans la mouette sont vraiment pleins et chargés à la fois, parce que le drame se poursuit jusque dans les regards qu'il y a, même quand il n'y a plus de texte. Donc vraiment, je vous incite à aller le voir, c'est un très beau spectacle.
Gaviota, donc une mouette argentine, mais pas argentée, oui. C'est du 17 au 21 au Montfort.
Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur, et bien connais donc Phèdre et toute sa fureur. Les dieux m'en sont témoins, ces dieux qui dans mon flanc ont allumé le feu fatal à tout mon sang. Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Toi-même en ton esprit rappelle le passé. C'est peu de t'avoir fui, cruelle, je t'ai chassé. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins? Tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins.
On enchaîne avec l'affaire Elle expire de la compagnie La Cordonnerie. Leur marque de fabrique, c'est le ciné-spectacle, un dispositif avec lequel ils ont longtemps réinterprété des contes avant de s'attaquer à des montagnes, hein, comme Hamlet ou Don Quichotte. Cette fois, c'est donc Phèdre de Racine qui imprègne la scène et l'écran, je devrais dire les écrans, puisque les spectateurs sont installés de part et d'autre d'une scène et font face à des deux côtés à un écran. L'un raconte l'histoire d'une célèbre comédienne qui doit jouer Phèdre, l'autre celle de Max, un étrange bonhomme qui vit dans une caravane. Sur scène, les comédiens animent la bande-son et bruitent le film. On commence avec quelques mots, Victorine Isan.
Je pense que je ne suis pas le bon public. J'espère en tout cas ne pas l'être et être passé à côté du spectacle. Parce que c'est vrai que moi, je trouve ça relativement affligeant. J'essaye de le dire comme ça, mais
de relativiser
c'est ça. Il y a une maîtrise technique, c'est sûr, ouais. C'est virtuose, il y a pas de problème. Et comme c'est toujours le cas des spectacles de La Cordonnerie, mais bon, même avec des bons acteurs, même avec des bons musiciens live, etc., on a beau fabriquer un téléfilm, ça reste quand même un téléfilm, quoi. Et moi, ce que je vois, c'est une écriture qui est quand même un peu vétuste, un habillage qui est pathos, des ressorts dramatiques qui sont visibles à des kilomètres, etc. Donc, franchement, je désolé de le dire, mais c'est vrai que je trouve ça vraiment, vraiment mauvais, quoi.
Anna Sigalevitch, allez-vous sauver ce spectacle?
Non, pas vraiment non plus. En effet, comme le dit Victor, c'est très virtuose et le dispositif, quand même, est vraiment à la fois très travaillé dans sa conception,
oui, oui,
mais aussi dans sa réalisation. Pendant la représentation, hein, il y a par exemple une synchronicité du texte qu'il joue en direct qui est assez impressionnant. Hein, c'est pile en place, donc c'est vraiment une partition avec une mécanique d'horloger qui est parfaitement huilée. Donc c'est un travail qui est très respectable parce qu'il y a beaucoup de travail et que on pourrait dire aussi qu'il y a quelque chose d'assez ludique dans le dispositif. Voilà.
Oui, c'est vrai.
Mais bon, pour être tout à fait honnête, moi je trouve aussi que le spectacle est un peu à l'image du titre. Donc, vous voyez, ça s'appelle « L'affaire, elle expire », mais ça s'écrit « L'affaire, elle, comme la lettre, point, ex, point, pi, comme le nombre, hein, comme la constante d'Archimède, point et R-E ».
Très compliqué.
C'est-à-dire que c'est très compliqué et on se demande un peu pourquoi. À quoi bon cette complexité, cette complication, parce que en effet pour moi non plus ça ne produit pas grand chose. Surtout je n'ai jamais réussi à sortir du dispositif pour être emporté dans leur fiction et être ému.
Alors la question de la fiction, c'est vraiment là-dessus que ça achoppe à vos yeux, si j'ai bien compris, Victor Inizan.
Oui, en fait c'est aussi bien, je crois, malheureusement sur le fond que sur la forme, c'est-à-dire sur la forme, même si je suis tout à fait d'accord avec l'aspect réalisation, etc., et puis même le dispositif du ciné-spectacle qu'on voit pas tant que ça, et que je trouve assez intéressant, enfin sur le papier, vraiment c'est pas du tout le problème, mais ce qu'on voit c'est donc un film qui est, comme vous le disiez Anna, enfin bruité en live et tout ça. Mais moi, ce que je vois, c'est des personnages qui, en gros, marchent la nuit dans des rues désertes ou alors qui sont en gros plan. Une musique qui est quand même très pathos, moi que je trouve assez belle, mais que j'aurais préféré presque voir toute seule détachée de la fiction, et qui surtout arrive à chaque fois qu'ils font un pas dans la rue, à chaque fois qu'ils tournent la tête, il faut rajouter une couche de musique, paf, musique. Bon, je comme si tout était d'une profondeur immense, alors qu'en fait on a juste tourné la tête. Enfin, je comprends pas trop ça, mais effectivement, pour revenir vraiment sur la fiction en elle-même, sur la narration, je peux pas tout rêver, enfin, on peut pas tout dire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pseudo-twists dramatiques qui sont ultra prévisibles. C'est-à-dire que les moments de révélation, on se dit, on l'avait compris depuis le début. Enfin, je comprends pas trop ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc d'une actrice qui, après avoir perdu son mari, metteur en scène, parce qu'évidemment, elle est actrice et lui, il est metteur en scène, quoi, engage...
Bon, on a le droit, quand même.
Oui, oui, on a le droit, mais c'est juste pour montrer que, bon, ça, c'est pas le cliché qui me gêne le plus, mais bon, c'en est un supplémentaire, qui engage un tueur à gages, je sais pas, on peut tout dire, mais en tout cas, c'est pas pour tuer qui on croit, quoi, pour dire ça comme ça. Et surtout, on a un personnage de tueur qui a un gros tatouage de couteau, qu'on voit à tous les plans, je pense, vraiment, ce couteau.
Ah, je l'ai pas vu.
Moi, j'ai vu que ça, vraiment, je me disais, à chaque fois, il nous montre qu'il a bien un tatouage de couteau parce qu'il tue des gens. Il est tout seul dans sa caravane avec un rat de compagnie. Et évidemment, il est bouleversé par Phèdre. Et Racine l'empêche de mener à bien ses contrats, quoi. Bon, je trouve ça vraiment un peu surfait. Et après, peut-être un autre élément. Mais c'est vraiment une interrogation. Je trouve ça un peu pas suspect, c'est peut-être un peu fort. Mais je me dis, ce sont donc des metteurs en scène, un duo, Samuel Hercule et Mathilde Vergans, qui se filment eux-mêmes la moitié du temps en gros plan, dans un film qu'ils réalisent eux-mêmes, pour après se doubler eux-mêmes, pour prendre la voix d'eux qui jouent dans le film, ce qui sont les personnages principaux,
mais aussi de tous les autres acteurs.
Ouais, il y a quand même un effet de surimpression comme ça, kaléidoscopique d'eux-mêmes. Alors, je pense pas que c'est truc... Enfin, j'espère que c'est pas une histoire d'ego, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est le problème, c'est qu'il y a un truc un peu contrôle fric, du coup, au bout d'un moment, dans le fait de tout faire dans le spectacle, qui comprime aussi, je trouve, ça participe à cette compression du drame autour de deux, et donc, c'est ça qui fait peut-être aussi que la théâtralité, elle est un peu en deux dimensions, quoi.
Alors, elle est en deux dimensions, mais surtout, en fait, moi, ce qui m'a gênée le plus, c'est que il ne laisse pas d'espace à notre imaginaire, alors que c'est tout le projet. Ce qu'il dit, c'est justement comme, parce que ce que vous avez, peut-être que vous l'avez dit, Marie, mais je me permets de le redire au cas où. Donc, on voit en effet un film d'un côté, la salle de l'autre côté voit l'autre film, mais après,
oui,
ça s'inverse.
Oui. Hein,
ça, c'était plutôt pas inintéressant.
Et après, donc, dans le troisième dans la troisième partie, le troisième acte, là, les spectateurs voient la même chose pour le dénouement final, que je ne révélerai pas, bien sûr. En fait, ils disent s'inspirer de l'effet Kouletchov, qui est un cinéaste russe, où dans les années 20, il a fait une expérience où il montre un acteur en gros plan. Et ce gros plan, il le montre face à un enfant dans un cercueil, face à une soupe et face à, troisième chose, c'est une femme sur un canapé.
Une femme, ouais.
Une femme sur un canapé. Et les gens qui regardent ça disent « Ah oui, cet acteur exprime très très bien à la fois le désir, le désespoir et la faim. » Alors que c'est le même plan. Bon. Mais ça, donc ça veut dire que ça travaille l'imaginaire du spectateur. Or, là, je ne trouve pas du tout, en fait, qu'il travaille notre imaginaire. Il travaille sur la polysémie d'un son, ça oui, et sur leur imaginaire à eux, qui nous le donne à voir. Mais je ne vois pas en quoi, nous, on est éveillés ou on peut voir les choses différemment. C'est juste qu'on voit la face A et la face B, puis la face B et la face A. Mais ça se limite un petit peu à ça.
Mais c'est un spectacle tout public, c'est ça ?
Oui, c'est tout public. Et c'est vrai que quand même, pour nommer quelques éléments quand même intéressants, je vous rejoins, Anna, sur l'aspect biface, en fait, qui est intéressant en soi. Enfin, je veux dire, ils en font pas, effectivement, ça n'éveille pas beaucoup d'imaginaire, mais l'idée est intéressante. Et aussi, l'autre chose, et je trouve qu'il est assez tout public, c'est le décalage entre les bruitages qui sont faits et puis les sons
l'action,
qui sont diffusés, voilà. Et l'action qu'on voit à l'écran. Ça reste assez gratuit, c'est-à-dire que moi, comme ils utilisent par exemple pas mal. Oui, c'est ludique. En fait, c'est ludique. Et c'est bien que ce soit ludique. C'est pas très dramaturgique, c'est-à-dire qu'ils utilisent par exemple beaucoup de jouets, de jeux d'enfants, pardon, un Docteur Maboule, etc., tout ça pour bruiter des choses qui n'ont rien à voir sur l'écran.
Et ça marche.
Et ça marche. Ça raconte pas grand-chose, mais en même temps, ça marche. Donc, il y a, on casse un céleri branche en deux pour faire un dos cassé, etc. Bon, tout ça, c'est assez amusant. Moi, ça me raconte assez peu, mais en même temps, effectivement, là, ça éveille une petite distance entre l'image vue et puis la fabrication, qui, quand même, elle n'est pas d'une immense profondeur, mais qui est quand même amusante à regarder.
Et Phèdre, on l'entend comment alors ?
Ah bah Phèdre.
Ah oui. Bah là, on l'a entendu un peu en slam.
On l'a entendu en slam, et puis après. Alors ça, c'est quand même assez impressionnant à quel point Mathilde Weyerganz est synchrone. C'est dingue.
Oui, oui.
C'est dingue. Et lui aussi. Donc on l'entend, pour moi, sans grande émotion. Je peux pas. Voilà. Jamais je ne suis sortie du dispositif.
L'affaire Elle expire, texte, réalisation, mise en scène, Mathilde Weyerganz et Samuel Hercule, donc c'est La Cordonnerie. C'est jusqu'au 7 février au Théâtre de la Ville Sarah Bernard, et puis en tournée, La Rochelle, Clermont-Ferrand, Marseille. Toutes les dates seront évidemment sur la page des Midi de Culture. Anna Sigalevitch, Victor Inizan, merci beaucoup d'être venu dans les Midi. On se retrouve très très vite. Quant à vous qui nous écoutez, vous retrouvez toutes les références de ces objets et de ces spectacles sur la page de l'émission. Et sinon, vous restez avec nous, on revient tout de suite.